Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Un portrait aujourd'hui. Celui d'un personnage mythique du Paris de la fin du 19e siècle. La Goulue. Première vedette du Moulin Rouge. Danseuse mythique de French Cancan. Et pour vous raconter son histoire, en tout cas le début de son histoire, de sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit sacrée reine du Moulin Rouge, je m'appuie sur une très belle biographie qui paraît aux éditions du Rocher, La Goulue, reine du Moulin Rouge, de Marilyn Martin. C'est une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
L'histoire de la Goulue commence un soir d'été 1866, un soir d'orage, dans une petite maison ouvrière de Clichy, près de Paris, chez Madeleine et Dagobert Weber. Lui est charpentier, elle est couturière. Ils ont déjà 3 enfants, et cet après-midi du 11 juillet 1866, Madeleine, qui a maintenant 30 ans, est sur le point de mettre au monde son 4e. Elle vient de perdre les os. La mère Mandragore, la sage-femme, arrive. Une voisine, Amélie, est déjà là, venue tout préparer. Le lit, le linge, le feu, l'eau chaude. Sous l'oreiller de Madeleine, elle a glissé au passage une image de Sainte Marguerite. Il paraît que ça aide. Bon. Et on attend. Et l'enfant arrive le lendemain matin.
Ben, c'est une fille. Bien dodue, ma foi. Qui doit bien peser ses 700 livres.
Et cette fille, il est décidé de l'appeler Louise Joséphine. Et cette petite fille que nous allons regarder grandir se découvre toute petite une passion pour la danse. En vérité, c'est sa maman, Madeleine, qui la lui transmet. Madeleine, quand un orgue de barbarie passe dans la rue, elle ne peut pas s'empêcher de danser. C'est plus fort qu'elle. Et là, elle serre la petite Louise contre elle, et elles dansent, toutes les deux. Et la mère jette 10 sous par la fenêtre pour que ça continue, et 20, et 30, jusqu'à 40 sous. Et Louise adore ces moments. C'est là que ça commence, en vérité. Et tout ça en pleine guerre, car la France vient de déclarer la guerre à la Prusse. On est en 1870. Mais c'est son père, Dagobert, qui lui apprend le pas du chahut sur cette musique d'Offenbach. L'art de lever la jambe. Et assez vite, le père se met à la produire dans des fêtes, dans des noces et dans des banquets. La gamine monte sur la table et c'est parti. Elle se déhanche, elle mouline des bras et des jambes, elle gambille. Les gens adorent. Une gamine si jeune et douée en plus.
Oh, monsieur Dagobert, oh, quelle est formidable votre fille. Vous avez bien de la chance.
Et ça continue quand elle est dans sa chambre, devant la glace, le seul miroir de la maison. Elle prend la pose, elle fait la moue, elle essaye des positions, elle salue. La gamine a trouvé son truc, et elle ne sait pas encore à quel point la danse va changer sa vie. Mais pas tout de suite. À l'âge de 13 ans, Louise se retrouve à travailler dans la blanchisserie où travaille déjà sa mère et ses sœurs, la blanchisserie Noisée, à Clichy. Et figurez-vous que le patron l'a choisi, elle et Émile, le fils d'une blanchisseuse, pour poser sur une carte postale publicitaire. Mazette. Elle se place sur le seuil. Elle s'est fait un chignon très haut avec un accroche-cœur. Le photographe pose son trépied. Il fourre sa tête sous son drap noir.
« Allez, faites-moi un petit sourire, les enfants. On ne bouge plus. »
Clic-clac, C'est dans la boîte. Qu'est-ce qu'elle est jolie? Elle est très jolie. Et encore, la photo est en noir et blanc. On ne voit pas son regard bleu acier. À la blanchisserie, pendant qu'elle repasse, Louise n'arrête pas de danser. Sa mère n'aime pas trop ça.
Mais tu as le diable dans la peau! Vas-tu te concentrer sur ton travail au lieu de faire ta mijaurée, là?
Mais les autres blanchisseuses adorent. Ça les fait rire. Et plus ça les fait rire, et plus Louise ose braver l'autorité maternelle. Louise est en train de devenir une jeune fille très indépendante. Dans le dos de sa mère, elle va sur les fortifs. Elle va guincher. Sacrée Louise. Et donc, la diablesse a 13 ans et elle se met à fréquenter ce qu'on appelle la ceinture noire de Paris, les fortifs, du côté de la porte de Saint-Ouen, repère de mauvais garçons et de filles aux mœurs légères. Il y a des guinguettes sur les fortifs, sans licence, mais quel problème, la police n'y vient jamais. Et à chaque fois qu'elle le peut, Louise emprunte des jupons froufroutants à la blanchisserie et elle va lever la jambe dans les guinguettes. Lever la jambe en dansant, et pas que, si vous voyez ce que je veux dire. Et en rentrant, sa mère l'attend.
Vas-tu te calmer, Louise, à fréquenter ces endroits? Je fais ce que je veux. Et si ça ne va pas, je vais me mettre en ménage, et je danserai toute la nuit si je veux. Oh, malheureuse! Et ta vertu?
Ah, ma vertu! Si tu passes par là-bas, va voir si elle y est encore.
Et vlan, la mère lui colle une beigne. À quoi ça sert? Elle le voit bien, Madeleine, que sa fille ne lui appartient plus. De toute façon, Louise est amoureuse. Son teint de pêche et ses cheveux d'or ont attiré le regard d'un bel artilleur.
J'avais 13 ans. C'était un soir d'été. Mon cœur se sentait tout gonflé. Je me suis dit, un militaire, ça me portera bonheur.
C'est lui qui lui a pris sa vertu. À part ça, je vous l'ai pas dit. Son père est mort. Un accident sur un chantier. Et sa mère s'est mise en ménage avec un Arnaud. Un brave homme qui lui offre des robes. Et les robes, elle aime ça. Louise a maintenant 16 ans. Elle est toujours blanchisseuse, mais à Paris, près du théâtre des Batignolles. Et sa patronne la charge de livrer le linge chez les clients. Alors elle entre dans ses appartements bourgeois. Elle voit les sculptures, les tapisseries, elle voit le luxe. Et dans la rue, elle plaît. Comment vous dire? C'est une nature. C'est une fille débordante de sève. C'est une belle fleur ingénue, spontanée, sans pudeur, qu'on imagine un peu perverse. Alors dans la rue, les marlous l'abordent. Ils reniflent la gagneuse. Et ils n'ont pas tort, hein. Louise fait commerce de ses charmes. Ne lui en voulez pas. C'est une vadrouilleuse. Elle essaye tout. Elle veut tout voir. Mais ceux qui veulent lui passer la bague au doigt... Ah non.
Me marier? De la peau.
Indépendante. Elle est indépendante. Et elle a bien l'intention de le rester. Un dimanche soir, Louise se retrouve tout en haut de l'escalier de la butte Montmartre, face au moulin de la Galette, un ancien moulin à blé devenu une guinguette. Et là, elle pousse la porte du bal Debré, où l'on danse tous les dimanches et jours fériés de 3h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir. 25 centimes l'entrée, le double pour les messieurs. Elle paye, elle enfile le couloir et elle se retrouve dans la salle de danse. Au milieu de toute une foule d'employés, d'ouvriers, de blanchisseuses comme elle, et de quelques vauriens aussi. Et là, un homme s'avance en redingote, la bouche édentée. On dirait Polichinelle.
Accepteriez-vous une valse, mademoiselle?
Là-dessus, l'encaisseur réclame son dû.
Pour danser, messieurs, c'est 2 centimes la valse.
Et elle accepte. tout en dansant, l'oiseau se présente.
Mon blase à moi, c'est Jules. Mais depuis qu'on m'a proclamé roi de la Gambille, mon surnom, c'est Valentin. La danse, vois-tu, c'est ma canne. C'est mon éther. Et la façon dont tu te trémousses me fait penser que tu es devenu aussi accro que moi. Je me trompe?
Bon, l'oiseau n'est pas un perdreau de l'année. Il a 23 ans de plus qu'elle. Mais c'est un sacré danseur. Ils tournent tous les deux. Les gens s'arrêtent les regarder. Et Louise vient de rencontrer Valentin le désossé, avec lequel elle va danser dans les 9 années qui viennent. Le même soir, Louise tape dans l'œil d'un certain Charles Destuc, quelqu'un qui va aussi beaucoup compter. Un peu journaliste, un peu impresario. Son petit nom, c'est l'intrépide vide-bouteille. Rapport au fait qu'il a trop fait la noce, au point qu'aujourd'hui, il ne peut plus boire que de l'eau de Vichy. Et un soir, ce Charles Destuc invite Louise au Grand Véfour. C'est lui qui l'a fait entrer dans la haute, dans le grand monde. Il l'emmène dans un bal masqué. Il l'habille en laitière, avec le corsage bien ouvert et la jupe un peu courte, pour qu'on voit ses jambes. Et Louise se retrouve dans une assemblée de mâles en rut.
Ils n'en ont pas des femmes, chez eux? Tous ces petits crevés, là?
Ce soir-là, elle fait sensation. Quand elle se met à danser, à lever la jambe et à lancer des you-you, en inventant des pas, en sautant comme un cabri. Au passage, elle perd sa coiffe et, à partir de maintenant, elle ne dansera plus qu'en cheveux. Les gens sont emballés. On commande du champagne et on lui sert du caviar. Et vous savez ce qu'elle dit?
Oh, ça vaut pas une bonne petite salade de cervelas?
Les gens éclatent de rire. Elle a fait un tabac. On lui donne un chapeau pour qu'elle fasse la quête. Elle récolte quelques pièces d'or et certains lui glissent directement la pièce dans le décolleté. Oh, mes enfants, quelle soirée! Ce fut ma première sortie dans le monde chic. Mais que d'invitations ensuite! La goulue est lancée. Un temps, Louise a la passion du bourgeois. Gaston Goulu Chilapane, par exemple, qui crèche du côté du bois de Boulogne. Ses copains l'appellent le Goulu. C'est comme ça qu'elle devient la Goulue. Ou alors le marquis de Biron, avec lequel elle s'enferme quelques jours et qui l'emmène en Normandie. Ce qui ne plaît guère à sa mère, qui la traite de traînée. Mais ces bourgeois l'ennuient, en vérité. Elle préfère de loin les petits gigolos de ses balles, Charlo Tanzini, par exemple, un déménageur dont elle se fait tatouer le nom sur le bras gauche. J'aime Charlo pour la vie. C'est aussi à cette époque que Louise rencontre Pierre-Auguste Renoir, le peintre, qui l'a fait poser dans son atelier de la rue Saint-Georges, nu. Entre deux pauses, elle lui dit
« Toi, tu peins. Tu resteras. Moi, je danse. On m'oubliera. »
Pas tout à fait, mademoiselle. Pas tout à fait. Et là, elle vient d'avoir 18 ans et pour la première fois, elle danse comme professionnelle. À l'Élysée-Montmartre, boulevard de Rochechouart. L'endroit est à la mode, on y arrive en fiacre. Un mendigo vient ouvrir la portière, les femmes doivent avoir un chapeau, et les hommes un habit, et en haute forme. Il y a un orchestre de 40 musiciens. Et pour la première fois, on ne vient plus danser entre soi. On vient assister à des exhibitions, et notamment à celle de la goulue, dont la danse, pour l'instant, est un peu instinctive. Elle improvise, et donc il lui faut apprendre. Et Louise se met à apprendre avec une certaine Lucienne Buzz, alias Grille d'égout. Elle apprend par exemple à prendre le jupon, à entrouvrir le rideau, comme on dit.
Tu m'as bien comprise, hein? Quand tu pourras lever ta jambe et relever ton jupon d'un petit coup de pied, nerveux, hein, le coup de pied, mais sans te baisser et sans montrer ta chair, alors tu seras prête pour le bal.
Et petit à petit, la gamine parvient à mater l'étoffe et à montrer sa chair, beaucoup plus que son professeur. Elle qui va bientôt montrer son cul au monde entier. Et c'est ensemble que la Goulue et Grille d'égout font naître sur la scène de l'Élysée-Montmartre ce qu'on appelle à l'époque le quadrille naturaliste, l'ancêtre du French Cancan. Et l'exubérance de la Goulue, sa provocation, légèrement teintée de vulgarité, lui vaut très vite la popularité. Le baron de Rothschild lui-même lui glisse 3 billets de 100 francs chiffonnés pour l'avoir levé son jupon et mettre ses couches de froufrou au niveau de son nez. À minuit, le tambour annonce le cancan. Les gens quittent leur table, se ruent vers la piste et forment un cercle autour des couples de danseurs. Et là, la Goulue se met à piaffer, à gambader en relevant son jupon. Elle frétille du buste, ses seins durs pointent sous sa blouse. Un chroniqueur de l'époque écrit: elle est une tourmente au milieu de la nuit, un appel du pied et du sexe, communiquant à toute une époque la force de vie qui est en elle. Et qui est là qui la regarde? Le commissaire Coutelat du Roche, de la police des mœurs. Il est chargé de combattre l'indécence. Il a autour du cou 1 centimètre de couturière, et quand il faut, il va mesurer l'échancrure des décolletés. Tout le monde l'appelle le père la pudeur. Et un jour, il la voit déboutonner son pantalon tout en dansant. Alors il l'entraîne à l'écart et il lui fait la remarque. Et elle?
Mais je te dis, petit père la pudeur, que c'est un accident. Est-ce que tu me crois, vieux mufle? C'est un accident.
Dans un coin ce jour-là, un petit bonhomme la regarde. Il tient un petit carnet à la main et il esquisse un dessin. Il est assez laid, cet homme. Mais la Goulue vient lui taquiner le museau de ses 12 mètres de jupon. Il s'appelle Toulouse-Lautrec. Il est peintre. Il adore cette fille. Il adore son coup de cul, sa manière de remonter son pantalon. Il adore ses fesses. Et elle, ma foi, elle l'aime bien.
Oh ben quand je vois mon cul peint par toi, mon petit touffu, je le trouve très beau.
Quand arrive l'exposition universelle de 1889, Louise a 23 ans. On vient d'inaugurer la Tour Eiffel. Et le soir venu, les visiteurs venus de toute l'Europe préfèrent aller au cabaret plutôt qu'au dîner officiel. Les princes, les princesses, les altesses préfèrent aller voir quadriller la Goulue. Et c'est comme ça que Louise devient célèbre dans le monde entier. Elle est la Parisienne. La Parisienne personnifiée. Un certain Joseph Holler s'apprête à ouvrir un cabaret Place Blanche, à Montmartre. Il recherche des danseuses pour l'ouverture. Et il vient donc voir danser la Goulue et Grille d'égout à l'Élysée-Montmartre. Et il les recrute, toutes les deux. La blonde, bien en chair et vulgaire, et la brune, maigre comme un jour sans pain et un brin coincé. Et lui et son compère Zilder ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire, dans ce cabaret qu'ils vont appeler le Moulin Rouge.
Mon théâtre ne sera ni un café, ni un cabaret, ni même un bordel. Ça sera les trois à la fois.
Le Moulin Rouge est inauguré le 8 octobre 1889. Louise a alors 23 ans. Toutes les cocottes de l'époque sont là. Les chanteuses, les comédiennes, et aussi pas mal d'horizontales, comme on dit, des tapineuses. Plus le gratin de l'aristocratie et pas mal d'étrangers. Et les gens s'amusent. C'est indescriptible. Les danseuses envahissent la salle. Elles se mettent à lever la jambe. Et dès le premier soir, la Goulue devient la perle du moulin, la fille chérie de la maison. Les autres sont payés 180 francs par mois. Elle touche 600 francs, auxquels il faut ajouter les soirées privées. Et dès qu'elle voit qu'elle a pris 2 cm de tour de taille, elle file au bain à vapeur, aux Batignolles. Et elle a maintenant un joli appartement, rue de Turin, et une bonne pour lui préparer ses jupons. Un soir, le prince de Galles vient la voir danser. Il prend une table au premier rang. Elle va danser juste devant lui.
Et dis donc, Galles, tu payes le champagne ou c'est ta mère qui régale ?
Un murmure parcourt la salle. On frôle l'incident diplomatique. Mais le prince de Galles paye le champagne.
Et assez vite, eh bien c'est une diva. Quand elle arrive au Moulin Rouge, les autres rasent les murs. C'est qu'elle n'est pas facile avec les autres danseuses, et notamment avec les nouvelles.
Un soir, une débutante lui tient tête. Eh bien, elle lui donne rendez-vous à 1h du matin sur le pont Caulaincourt, et elles se battent. Et ce jour-là d'ailleurs, elle manque de se faire précipiter du haut du pont. Les marlous qui assistent à la scène sont obligés de les séparer.
Un autre jour, elle arrive au Moulin Rouge en tenant un bouc en laisse. Manière de dénoncer l'interdiction faite aux femmes d'entrer dans un lieu public sans être accompagnée d'un mâle.
Désormais, sur la scène du Moulin Rouge, la Goulue a un partenaire exclusif, Valentin le Désossé.
Vous vous souvenez ?
Elle l'avait rencontré au Moulin de la Galette.
Et Toulouse-Lautrec est toujours là, dans un coin.
C'est lui qui dessine l'affiche de la saison 1891, qui met la Goulue à l'honneur. L'affiche fait un carton dans tout Paris. Lautrec est devenu le peintre officiel de la Goulue.
Lautrec ? Ah, c'est un chic type. Il n'est pas comme les autres hommes. Il me grandit.
Elle est devenue sa muse. Et il va lui consacrer une centaine de dessins et de tableaux, que la mère Lautrec d'ailleurs va brûler en grande partie parce qu'ils sont contre la morale. Louise a maintenant 28 ans. Et elle est un peu fatiguée. Elle est usée par les excès et par l'alcool. Et c'est la fin d'une époque. Après 6 années en haut de l'affiche au Moulin Rouge, après 15 ans de cancan, la Goulue décide de changer de vie, de s'éloigner de Montmartre, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Elle s'achète une baraque foraine. Elle veut courir les fêtes et les foires. Et c'est le début d'une lente dégringolade.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.